Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct donc des studios de Images Singulières. Nous venons interviewer donc Gilles et Valérie, les directeurs du festival Images Singulières, qui commence demain, n'est-ce pas ? Bonjour Gilles, bonjour Valérie.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'accepter notre interview.
Avec plaisir.
Et donc on a plein de choses à se dire, hein, parce qu'il y a quand même eu un gros tsunami, on va dire. Qui s'est passé, qui va se passer ce week-end.
C'est ça, oui.
Hein, on peut peut-être commencer par ça, qui est quand même le sujet brûlant. Mm. Comme ça, après, on fait un historique un petit peu du festival aussi, peut-être.
D'accord. En fait, oui, il a fallu qu'on prenne une décision au vu de la météo qui s'annonce pour le week-end. On a scruté, on est très content pour la planète qui pleuve ce week-end, mais par contre, pour les soirées de projection et les soirées DJ qu'on devait faire au Fort Saint-Pierre, il a fallu trouver un plan B. Donc le plan B, ça va être des projections au cinéma Comédia. Donc le vendredi et le samedi, en deux sessions. Donc la même projection du vendredi soir sera projetée à 21h et à 23h. Pareil pour le samedi, pour la soirée 2. C'est sur réservation, c'est en place limitée. Donc précipitez-vous sur le site d'Images Singulières pour pouvoir vous inscrire. Et on fera une grosse fête, là on vient d'avoir la confirmation, samedi soir à la salle Brassens, avec Père DJ au platine, Radio Muge.
Il va falloir boire en une soirée
ambiancer.
Tout ce qu'on devait boire en deux soirées. Donc il y a beaucoup de travail.
je sais qu'il y en a plein qui n'auront aucun problème pour
venir nous soutenir.
Oui, ouais. Je pense qu'on a des clients sérieux. Oui.
Bon, voilà, donc ça c'est des petits aléas hein, du temps.
Direct.
Bon, du direct, exactement.
Ouais, mais je pense que si on s'y prend bien, déjà on a une fête jeudi soir dans la rue Lacan là,
oui.
Et puis ensuite
avec l'incontournable Guy Lamour donc.
Voilà, là en principe il y aura pas de pluie, mais.
Alors s'il peut venir, parce qu'on sait jamais avec Guy.
Oui, mais nous on sera là.
Des fois,
voilà, on fera la fête dans la rue.
Il est incontournable quand il est là. Non, mais il va venir, il est extrêmement sérieux en ce moment. Et donc ensuite les deux soirs au cinéma, ça va être quelque chose qu'on a jamais vécu, qu'on n'a jamais fait, mais franchement ça peut être sympa. Voilà, on va regretter longtemps le très grand écran au Fort Saint-Pierre, tout ça, mais bon, c'est engagé trop de choses, trop d'argent pour l'association. Et si on avait fait chou blanc, c'était à peu près sûr samedi, vendredi, il faisait frisquette, comme on dit.
Ouais, 14 degrés annoncé, en ressenti, c'est pas. Voilà.
14 degrés, ouais. Et puis voilà. Donc,
mais sommes-nous à 7
en plein mois de mai. Normalement, on doit faire ce qu'il nous plaît.
Voilà, donc.
Non, mais les seins de glace, en principe, sont passés, mais ils traînent. Ils traînent. Ouais.
C'est peut-être l'apocalypse, hein. Peut-être que lundi, la ville n'existera plus. On sera sous l'eau, on est entouré d'eau, mais bientôt, on sait que Frontignan-Plage va disparaître bientôt, mais peut-être que Sète va disparaître avant Frontignan.
Hein. A priori, Villeroy va partir en premier, et puis après, bon.
Ça nous ramène d'ailleurs à la programmation.
Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle?
Je ne sais pas.
Ça nous ramène d'ailleurs à la programmation, quand la mer monte.
Oui,
Gilles,
la mer monte.
Notre directeur artistique préféré.
C'est une chanson belge, ça, non ? Quand la mer monte.
La mer monte.
Vous ne connaissez pas ça ?
Léonte.
Si, si.
Quand elle descend.
Si, on a du mal à associer.
Je l'attends.
Évidemment. C'est pas une association naturelle, si tu regardes. Oui, donc tu l'as tendu une perche.
Oui, mais il ne l'a pas prise.
Du festival, donc cette année.
Déjà par rapport à l'affiche aussi, peut-être. Donc qui.
Ah, j'ai un scoop sur l'affiche.
Ah, mais ouais, c'est
j'ai un scoop parce qu'on a cette année, on a un gros partenariat avec Gare et Connexion, donc on a plein de choses à la gare, tout ça, comme d'habitude, mais beaucoup plus sur les quais. Et il y a une photo de l'affiche qui a été déchirée complètement ce matin. Donc, ce n'est pas un acte de vandalisme, c'est une réaction homophobe primaire.
Ah oui, bon. D'accord, ok.
Ouais.
Ah ouais. Ouais, ah ouais, ouais. On en est encore là, ouais.
Parce que l'affiche représente une personne du troisième sexe, comme on dit, à Tahiti. Et donc, c'est une réaction vraiment de rejet total. Comme les joueurs de football qui ne veulent pas mettre le maillot arc-en-ciel le jour. Voilà. Donc, ça existe encore à 7.
Bah ouais. Mais pas que à 7. Hein.
Je propose un jeu de piste pour qu'on trouve. Alors on peut faire une ratonnade de homophobes.
Ouais, ouais, ça, c'est voilà. Ça, ça, ouais, ça serait bien que ça s'organise. Ouais. Ouais. Ouais.
Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur le travail de Richard Pack justement ?
Alors cette affiche, bon, tous les ans on a habitué un petit peu les gens à avoir une affiche. On a compris que l'affiche était un élément important, pas seulement de com, mais qui pouvait questionner un petit peu les gens sur ce qu'on faisait. Et cette année, très vite, moi quand j'ai vu cette photo, je savais qu'à La Réunion et aussi dans le Pacifique Sud, Tahiti, tout ça, il y avait... en tous les cas, les gens, les jeunes garçons qui se sentaient pas bien dans leur peau de garçon quand ils étaient jeunes avaient un statut spécial là-bas, c'est-à-dire que très vite, ils les éduquent comme des filles. Hein, c'est-à-dire que normalement, un jeune garçon, de façon traditionnelle, il joute pas là-bas, il y a pas de joute. Hein. Il y a un récif, il y a des requins, donc on joute pas. Mais on les éduque en faisant des jeux un peu guerriers, tout ça. On voit un petit peu aussi quand on voit les rugbyman du Sud-Pacifique, là, les Maoris, il y a toute une culture comme ça un petit peu guerrière. Et ces jeunes-là, on les mettait à part directement. Ils avaient un rôle culturel dans la société. Voilà. Oui, bon, l'affiche, donc ça représente on les appelle, je crois, les Raerae. Enfin, il y a plusieurs. Avant, on les appelait les Mahus, mais ce sont des gens, donc les gens du IIIe siècle, qui ont un vrai rôle social. À Tahiti, parce que ça doit être une société un peu plus inclusive que la nôtre. Ils sont pas rejetés, ils participent de la culture, ils dansent, ils chantent, voilà. Après, il y a aussi, c'est pas aussi rose que ça, parce qu'il y a aussi des fêtes de prostitution, des choses comme ça. Mais en tous les cas, ils existent de façon beaucoup plus claire et nette que chez nous, voilà. Donc, et ça, c'est les premiers explorateurs qui ont découvert, quand ils sont arrivés là-bas, il y a des écrits qui existent où déjà c'était déjà comme ça. Il y avait déjà un troisième siècle à l'époque. Mmh. Voilà.
Quelque part, ils sont marginalisés et intégrés en fait. C'est un peu
Marginalisés, oui, parce que. Je pense que chez nous, il y a beaucoup de gens, on voit bien maintenant. Alors, je pense qu'il y a aussi un phénomène, peut-être pas de mode, mais il y a peut-être un peu trop de. On met peut-être un peu trop l'accent. Là-dessus en ce moment, mais en tous les cas, il y a plein de gens à qui ça offre une porte de sortie parce qu'il y a des gens. Qui se sentent pas bien dans leur corps, voilà, qui se sont trompés, qui se sont trompés de sexe au départ. Enfin, on s'est trompé pour eux de sexe, voilà.
Bon, encore, c'est en train de changer quand même, parce qu'il y a des évolutions quand même dans nos sociétés.
Oui, ça avance petit à petit, mais
c'est encore un
mais
peu
en tout
timide,
cas là-bas, mais... là-bas c'est différent parce que culturellement c'est un petit peu comme dans certains pays où les hommes un peu efféminés, si je puis dire, c'est pas la bonne expression, mais en tous les cas ont un rôle, par exemple en Inde ou ailleurs, ils dansent, dans les cirques en Inde, les femmes en général, il n'y a pas de femmes, c'est les hommes qui prennent le rôle des femmes, donc voilà, il y a des sociétés où on leur donne un rôle un peu plus prégnant, un rôle culturel en tous les cas. Voilà. Et c'est un peu le cas là-bas.
La chance donc d'accueillir cette année 6 photographes qui ont réalisé la grande commande photographique du ministère de la Culture. Qui a commandé à 200 photographes des sujets photographiques sur la France en crise, l'après-Covid de la France. Et donc, Richard Pack fait partie de ces 6 photographes que nous exposons au Centre photographique documentaire jusque début août.
Donc, il y a Valérie Couteron, Pierre Faure, Stéphanie Lacombe, donc Richard Pack, Courtenay Roy et Frédéric Stussin, c'est ça ? Pour les
Courtenay Roy,
pardon.
Non, je t'en prie.
Donc, ok. Donc, ça sera au centre documentaire. Donc, ici, au siège, on va dire, d'Image Singulière.
Ouais, et ça, c'est jusqu'à 6 août. Hein. Ça dure un peu plus longtemps que le festival en tant que tel.
Voilà. D'accord. Et donc, on évoquait aussi Lorenzo, qui a gagné justement le... Alors, c'est quoi ? C'est le...
Lorenzo Castor, c'est notre invité en résidence année.
Qu'on aura d'ailleurs en interview.
C'est un travail étonnant. C'est le 16e invité, donc c'est le 16e livre. Donc ça commence, on commence à avoir une somme quand même assez importante d'images sur la ville. Et lui, c'est un Italien, il est très liant, comme les Italiens quand ils savent qu'ils auront des photos à faire. Hein, c'est ça, non ?
Mmh.
Et donc, en 3 semaines, en 15 jours, 3 semaines, il connaissait autant de gens que nous à 7. Il nous invitait même à manger chez des gens qu'il avait rencontrés. Enfin, bon, bref.
Il est même passé nous voir au studio.
Et là, je sors de son exposition et la scénographie
c'est très, très étonnant.
Époustouflante.
Alors ça, c'est à la salle Tarbes-Riège ?
Ouais, oui, cette Tarbes-Riège et le vernissage chez...
Alors, le vernissage de l'exposition de Lorenzo Castor, c'est samedi à 11h30 et ce sera l'occasion justement d'une signature de livre qu'il signera également au centre photo à 18h le vendredi et le samedi.
Et donc, ça dure combien de temps, celle-là ?
Alors là, c'est la durée du festival. Ce sera jusqu'au 11 juin.
Ok, d'accord. Et alors, donc, il y a aussi Felipe Fittipaldi. Donc lui, c'est le Grand Prix, lauréat du Grand Prix Image Singulière, c'est ça ?
Voilà, chaque année, depuis 5-6 ans, nous remettons en partenariat avec l'école photo, le TPA de Toulouse et le journal en ligne Mediapart, un prix, le prix ICEM. Et il y a une dotation de 8000 euros pour le grand prix, pour un photographe qui doit finaliser son travail. Et donc, l'année dernière, Felipe Fittipaldi a reçu cette bourse. Et donc, nous restituons l'exposition, le travail qu'il a réalisé. J'en parlais tout à l'heure, Quand la mer monte, parce qu'il sort un livre là, qui s'intitule comme ça. Mais surtout... Ah non, d'ailleurs, ça s'intitule la marche de l'océan, pardon. Et l'exposition, donc ça, c'est une première, sera présentée dans les jardins du musée Paul Valéry, une exposition en extérieur, et qui, elle aussi, va durer plus longtemps que les dates du festival, puisque c'est jusqu'au 1er octobre, nous permettant de travailler avec les scolaires en septembre. D'autant qu'on a fait un partenariat avec le master génie côtier littoral de l'Université des sciences de Montpellier. Et les étudiants ont échangé avec Felipe Fittipaldi et Marie-Hélène Russe, qui est géomorphologue, qui a rédigé les textes du livre de Felipe. Et donc ces étudiants ont réalisé un petit livret de vulgarisation, on va dire, sur la problématique de l'érosion côtière, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Et Gilles peut en dire quelques mots.
Je peux. I can do it. En français ?
Tu peux le faire en français.
Ou en espagnol, si
alors c'est un fleuve qui s'appelle Paraíba, je crois, un peu sur la côte sud atlantique du Brésil. Et ce fleuve, il s'assèche. Petit à petit, comme beaucoup de ici. Ouais. Et donc, l'océan en profite pour rentrer dans l'estuaire. Et depuis Atafona, une ville qui est côtière, qui peut ressembler à Sète, depuis une dizaine d'années, elle a déjà perdu 600 maisons et l'océan avance d'une 10-15 mètres par an.
Ah ouais,
donc, la ville disparaît et la ville est condamnée,
ah ouais,
de toute façon. Mais Sète n'est pas condamné, puisqu'ici, on sait que...
Il y a le Mont Saint-Clair.
Il y a des bateaux.
On marche sur l'eau, il y a le Christ est là.
Non, mais la mer a peur des étoiles.
Non, par contre, Frontignan-Plage, c'est mort. Hein.
Ouais,
il faut vendre vos maisons à
et
Frontignan-Plage.
Donc.
Alors, Villeroy, on ne sait pas encore. Il faut qu'on décide. On va décider ce qu'on en fait de Villeroy. Peut-être une cité lacustre. Mais il faut que je vende ma grosse maison. J'ai une grosse maison, moi, à Villeroy.
Ah oui.
Face à la mer, là.
Ah oui, c'est le moment de la vendre.
Ouais, ouais. Mais non, c'est une problématique. Je pense que les complotistes qui ne croient pas que le climat est en train de changer, ils feraient bien
et que la Terre est plate.
De se payer un billet. Non, pas se payer un billet au Brésil, parce que ça va rajouter.
Ils viennent voir l'exposition.
Ils viennent voir l'exposition, ils comprendront que l'océan, l'océan, c'est l'océan et qu'on ne peut pas lutter.
Et il y aura une conférence, justement, une agora, le samedi à 15h au musée Paul Valéry. Donc, ça sera à l'intérieur du musée et pas dans les jardins, étant donné qu'on nous annonce un petit peu de pluie.
Donc samedi, 15h.
C'est ça, au musée Paul Valéry, rencontre avec Felipe Fittipaldi, Marie-Hélène Russe, pour sujet sur la montée des eaux.
D'accord. Et alors, il y a aussi une grande rétrospective. Michel Van Den Ekout, ça
Ouais, magnifique. Magnifique exposition à la chapelle.
Oui, voilà.
Un photographe belge, un photographe, un vrai photographe, parce que en fait la photographie c'est un procédé, chimique, hein. Et la photographie, le numérique, on ne devrait pas appeler ça photographie. Et lui c'était un adepte de la photographie, il avait toujours son petit Leica sur lui. Et il a documenté pendant des années, une Belgique assez surréaliste. Il a photographié beaucoup aussi les animaux, les chiens. Il photographiait les chiens comme les hommes. Et il faisait lui-même ses développements, ses tirages. C'est une espèce de photographe qui n'existe plus, je pense. Et c'est magnifique, tout simplement magnifique. Il y a une œuvre. On voit bien parfois, on voit bien dans la rue qu'un chien ressemble à son maître ou l'inverse. Et lui, il a beaucoup d'images comme ça qui sont très... c'est des petits riens. Il est capable de faire une image avec pas grand-chose du quotidien. Et finalement, ça fait œuvre. Et je vous conseille, c'est magnifique.
Oui, l'installation est vraiment sublime et a toute sa place à la chapelle de Cartier-Haut. Mmh. Et c'est à la fois plein d'humour, de tendresse, en même temps de cynisme. C'est un peu corrosif parfois, mais c'est très intense. Quoi.
C'est un hommage qu'on lui rend parce qu'il est mort il y a 7-8 ans. Voilà.
Et du coup, ça dure combien de temps, l'exposition ?
Jusqu'au 11 juin.
Jusqu'au 11 juin. Ouais. D'accord, ok. Il y a aussi donc, Rodrigo Gomez Roviera. Alors lui, c'est sur le monde d'après Pinochet, un peu, c'est ça ?
C'est pas vraiment ça. On célèbre les 50 ans du Chili, là, du coup d'État. Mmh. Ce n'est pas une date... on en parlait parce que ils ont élu un jeune président il y a un an et là ils viennent de voter à nouveau pour savoir qui allait écrire la constitution, et c'est un parti d'extrême droite qui a gagné les élections, donc la constitution va être écrite par un parti d'extrême droite, et après il va falloir revoter pour savoir si cette constitution est acceptée, donc elle va être refusée, et donc on va rester sur la constitution de Pinochet, qui fait que je vais faire simple, hein, pour pas que les gens fuient leur radio, mais en tous les cas, c'est la constitution de Pinochet, c'est les Chicago Boys, ce qu'on appelle Chicago Boys, c'est l'ultralibéralisme, c'est-à-dire que les retraites sont privatisées, l'eau est privatisée, l'école est privatisée, tout est privatisé, et la santé, etc. Donc c'est une société qui génère énormément de précarité. Et Rodrigo, il a une sacrée histoire, parce que quand le coup d'État est arrivé, il avait 3 ans. Son père, c'était le tourneur de
Quilapayún.
Vous vous souvenez, ça, un petit peu. Et donc, son père, il a eu la chance, en fait, il était communiste à l'époque. Donc, c'était un soutien d'Allende. Et son père était en France, en tournée avec le groupe, quand il y a eu le coup d'État, parce que l'armée est arrivée chez eux pour arrêter le père. Et ils ont trouvé que la mère et les 3 enfants... Et en fouillant la maison, ils ont trouvé une photo de famille sur laquelle il y avait la mère, les 3 enfants et Allende. Parce qu'un jour, son père, en se promenant en voiture, il avait vu Allende sur le trottoir, parce qu'Allende, un peu comme le maire de Sète, il se promène parfois en ville, et il se promenait sur le trottoir, et ils avaient arrêté la voiture, ils avaient demandé à Allende s'il pouvait faire une photo. Allende avait dit oui, mais une photo de famille. Il ne voulait pas une photo de lui seul. Donc le père, il a mis les enfants, tout ça. Et Rodrigo, il avait 3 ans sur la photo. Il est entre les jambes d'Allende, le président de la République. Et quand les militaires ont trouvé cette photo, ils ont dit, mais vous êtes proche d'Allende, tout ça. Donc ils ont arrêté la mère, les 3 enfants, etc. Et puis il y a un général un peu moins obtus que...
Tiens donc.
Que les autres, ça arrive. Il a dit à la mère, je vous donne, je vous libère, je vous donne jusqu'à demain soir pour quitter le pays. Et la mère, elle a dit, oui, mais je pars pas sans ma photo. Et le général lui a rendu la photo parce qu'elle lui a dit, mais imaginez si vous aviez une photo de vos enfants avec le président de la République, et comme c'était un général, il avait un certain sens de la hiérarchie. Donc il lui a rendu la photo et elle est venue s'installer en France. Et Rodrigo, il a vécu 24 ans en France, je crois. Et à un moment, il s'est questionné de savoir s'il était français ou chilien. Et il a dit, je suis chilien. Et il a pris un cargo pour digérer le... Il a mis 52 jours pour arriver dans sa nouvelle patrie. Et là, il nous raconte, en fait, ces 50 ans-là. Voilà.
D'accord. Alors ça,
c'est magnifique. C'est, où, c'est au Cyclo. C'est au Cyclo. C'est voilà. Le 14 juillet. C'est un petit lieu qui est un ancien lieu photo.
On connaît. Il a déjà été utilisé pour.
Et franchement, il a fait une super cello. Il a fait une énorme reproduction de son bureau sur, je crois, 7 mètres par 10, un truc comme ça. Il y a un peu de musique et il y a tout ce qu'il y a dans son bureau. C'est comme un cabinet de curiosité. Et par-dessus, il a remis des choses. Et on s'y sent bien, c'est magnifique, on apprend plein de choses. Mmh. Voilà, et on chante des chansons.
Et des très belles chansons.
À la flûte de Pan.
À la flûte de Pan. Pas que.
Il y a d'autres endroits aussi cette année. Je ne sais pas si c'est juste cette année pour les. Il y a un truc au jardin antique méditerranéen de Balaruc.
Oui, alors ça, c'est depuis l'année dernière. On a voulu. Il a fallu aussi qu'on trouve des nouveaux espaces d'exposition. Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable d'être installé dans un lieu dans lequel nous bénéficions d'un accueil, etc. Et dans le cadre d'un partenariat avec l'agglomération, depuis l'année dernière, on investit le musée ethnographique de l'étang de Thau à Bouzigues et le jardin antique méditerranéen à Balaruc. Et là, on a deux très belles expositions aussi, l'une jusqu'au 11 juin et l'autre jusqu'au 25 juin. Donc, celle d'Éric Garraud jusqu'au 25 juin, Gilles.
Éric Garraud, c'est un peu le contrepoint de l'exposition de Fittipaldi sur le Brésil. Sauf que là, c'est une vision un peu optimiste du Brésil, parce que c'est le Minas Gerais. C'est une région qui est pas très loin d'ailleurs de l'endroit où Fittipaldi a travaillé sur cette ville qui disparaît. Mais là, c'est une région à la fois où la terre est très riche, mais c'est très montagneux. Oui. Et c'est la chance qu'ils ont eue là-bas.
C'est riche hein, comme sol, je crois.
C'est très, très riche. Et la chance qu'ils ont eue, c'est que c'est très montagneux. Donc les grands latifundos, là, les grands propriétaires terriens, n'ont pas pu faire du soja, des trucs comme ils font en Amazonie. Et donc, c'est une petite agriculture qui est restée. Très respectueuse finalement de l'environnement. Et là, il y a une migration des jeunes qui arrivent, qui font du bio, etc., qui finalement sont en train de sauver toute cette région qui est absolument magnifique. Et c'est un super boulot. C'est un super boulot. Eric, il est marié avec une Brésilienne, donc il a voyagé à cheval et tout ça, dans les petites collines, tout ça. Il est vraiment en immersion. Et c'est chouette. C'est pas un endroit qui est facile à scénariser, le musée de l'étang, mais c'est un chouette endroit. Franchement.
Ça, c'est pareil. Combien de temps ça
dure? Alors, le vernissage, je vous conseille le vernissage parce que c'est eux qui fournissent
Les huîtres, les crevettes. Alors, cette exposition au musée de l'étang sera jusqu'au 25 juin.
Le vernissage, c'est quand?
Le vendredi matin. On fait la visite de l'exposition de Natella Grigala-Juvilly dont on va parler donc, et au Jardin Antique à 10h et celui d'Éric Garraud c'est à 11h au musée de l'étang.
À 11h, des huîtres,
vendredi,
du blanc,
19 mai.
Des crevettes,
on sera là.
Du pain beurré. Ouais, mais...
Flo, il n'aime pas les coquillages, mais moi, je serai là.
Les coquillages, non, mais
c'est les huîtres que j'aime pas.
Ah ouais.
Ah, non.
Et du coup, on pourra en revenir à Natella Grigala. Natella Grigala-Juvilly, ça
Non.
Donc, géorgienne.
Alors, elle, son travail, c'est sur la trace de son enfance, c'est ça dans
C'est un chouette boulot.
Travail très poétique.
Donc, elle est géorgienne et elle vivait dans les montagnes. Elle est née dans les montagnes. Et c'est un endroit, un petit peu comme dans plein d'endroits, ça se déserte complètement. Les gens fuient, surtout dans les pays pauvres comme la Géorgie. Et donc, elle revient sur les traces de son enfance. Elle a eu une relation assez spéciale avec sa mère. C'était une jeune fille, un jeune enfant très libre. Sa mère s'en occupait pas beaucoup. Et quand elle a commencé à photographier jeune, elle a fait un peu n'importe quoi. Et les gens sont... Enfin, je veux dire, des petites photos de famille, des trucs comme ça, des mariages, des trucs. Et des photos qui sont développées un peu à la va-vite. Mais finalement, l'ensemble nous donne une belle idée de finalement de ce qu'étaient ces villages-là parce qu'ils étaient pauvres mais les gens étaient extrêmement conviviaux. Ça rappelle le 7 d'il y a 20 ou 30 ans. Mm-hmm. Hein, voilà, où
qu'on regretterait presque.
Non,
voit une belle solidarité. C'est vraiment poétique, c'est joyeux.
Chouette. Franchement, c'est un chouette boulot parce qu'il est graphiquement, c'est un petit peu rude parce que c'est développé, il y a beaucoup de grains, tout ça, mais il y a beaucoup d'émotions. les gens, après avoir cultivé les champs, ils mangeaient ensemble, il faut s'y arrêter en tous les cas. Et le jardin antique aussi, je le conseille pour la digestion. C'est une belle balade.
Après les huîtres, donc.
Après les huîtres.
Et du coup, alors il y a aussi une exposition en façade du centre documentaire dédiée à Ronan Guillou, c'est ça ?
Ouais. Oui. Ben Ronan, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, on a fait une affiche avec un couple dans une couverture.
Oui.
Qui était sur la banquise en Alaska, c'était lui. On l'avait rencontré à ce moment-là. Et puis moi, je voulais qu'il fasse la résidence, parce que j'aime bien ce style carré couleur, là, un peu frontal. Mm-hmm. Et donc Ronan, il devait venir en septembre. Et fin juillet, on lui a diagnostiqué un cancer, et il est mort avant de venir.
Ah ouais. Donc là, récemment, en fait.
Il est mort début septembre, ouais. Juste la semaine avant de venir ici. Donc, ouais. On a trouvé Lorenzo très vite après, mais il a fallu faire le deuil de Ronan, qui était un chouette gars, qui avait 50 ans et ouais. Voilà, qui est mort
très vite, quoi.
Très vite, et donc on pouvait pas faire moins que de l'avoir un petit peu 6 mois dans la rue comme ça pour
lui rendre hommage.
Voilà. Voilà. Lui.
Voilà. Voilà. Le meilleur hommage, c'est de venir voir son travail.
Voilà.
C'est ça. Et là, c'est nuit et jour. Hein. C'est sur la façade du centre photo.
C'est une fresque sur les États-Unis. Ça s'appelle American Narrative.
Alors après, est-ce qu'il y a d'autres noms aussi qu'on n'a pas évoqués directement, comme Valérie Coutron, je crois, tout ça.
Ça, c'est la BNF. C'est l'expo collective de la BNF. Ouais. Voilà. Mais il y a deux très très belles soirées de projection. Franchement. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu aller au Fort Saint-Pierre.
Ah ouais, mais c'est vraiment dommage. Ouais.
Mais je pense qu'au cinéma, ça sera bien aussi. Mais en tous les cas, je vous conseille. Il y a deux...
Je ne sais plus si on a bien évoqué les 2 soirées projection.
Il y a un petit film.
On a fait les deux.
Ouais, mais il y a un moment, je fais une spéciale dédicace à Darmanin.
Vous voyez Gérald.
Gérald, ouais. Avec un petit film de Jean-Gabriel Perriot qui s'appelle L'art délicat de la matraque. Je vous conseille. Okay. 5 minutes de baston.
Donc en condition manif, quoi.
Mais dans le monde entier, avec une belle musique des Clash. Ah, oui. Ça vaut les
paroles.
On est joyeux après ça. On est très joyeux, voilà. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. C'est des soirées très éclectiques. Et puis, je veux dire, on politise un petit peu le débat, et c'est bien, ça fait du bien.
Donc on peut dire que du coup ta sélection correspond quand même, enfin est souvent liée à des phénomènes sociétaux ou enfin en tout cas sur l'actualité qui suit.
Bah nous on regarde jamais la télé, mais on écoute la radio.
Ouais.
Et on voit que tout va pas bien.
Ouais.
Donc nous on est le reflet un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Voilà. On essaie de matiner ça, d'avoir un peu d'humour pour pas que les gens
Que ce soit trop sombre.
On a déjà eu quelques suicides, donc on fait gaffe quoi, maintenant parce qu'on est quand même assez.
Au sein de votre association ?
Non,
des visiteurs qui se jettent par la fenêtre.
Il faut
pas se cacher, il faut pas se voiler la face. Hein, le monde va pas très bien, donc les gens ramènent des sujets qui sont. Sûr. Et nous, on essaie toujours de trouver des gens qui sont pas frontaux, qui font pas de l'actualité, qui essaient d'avoir une vision un peu analytique des problèmes. Voilà. Et puis de temps en temps, quand on peut faire un peu d'humour, on a un très beau film qui s'appelle aussi Brocoli, que je vous conseille. C'est-à-dire, le teasing, c'est. Si vous n'aimez pas le brocoli, commandez une pizza. Et je vous laisse voir, vous verrez, c'est très très drôle parce que ça dure 3 minutes. Et là, je pense que vous ne mangez plus de brocoli après.
Okay. Alors, je précise aussi qu'il y a des stands d'éditeurs, donc le vendredi et le samedi.
Alors, en fait, vendredi et samedi, voilà, de 14h à. Bah, alors, le jeudi jusqu'à 21h. Et vendredi et samedi, il y a des signatures de livres apéro. À partir de 18h, mais donc tous les après-midi, nous avons invité 3 éditeurs qui font partie du collectif France Photo Book. Donc, des éditeurs partenaires de longue date, André Frère, La Main Donne et Le Bec en l'air. Le Bec en l'air qui est le co-éditeur du livre de la résidence. Et donc l'occasion de rencontrer des photographes et de faire signer des livres. On a beaucoup de photographes qui vont venir. La liste est à consulter sur le site internet, mais c'est un moment privilégié d'échange avec les photographes.
Et il y a une grosse fête, après on bloque la rue Lacan, notre
jeudi.
Rue, jeudi soir, voilà. On fait la fête.
Ouais, mais ça, c'est pour le, donc, le lancement du
jeudi. C'est l'inauguration.
Manger, boire.
Donc jeudi à partir de 19h.
Voilà, le centre photo ouvre à partir de 10h. Tous les lieux d'exposition du festival seront ouverts jeudi. Et on fait un petit vernissage en gare de Sète, justement, où il y a un petit florilège de toute la programmation en partenariat avec Gare et Connexion en gare de Sète. Donc un petit vernissage à 11h30. Et ensuite, on se retrouve effectivement aux alentours de 18h30 au centre photo pour le lancement du week-end d'inauguration.
Okay. À boire, à manger. Je l'ai déjà dit, non?
Oui, tu l'as dit.
Mais c'est, les gens se sont.
On m'a dit que samedi, il y avait une grosse fête à la salle Brassens avec Brice.
C'est ça. Et c'est gratuit. C'est gratuit.
Il y a une grosse fête à partir de quelle heure
Ça, c'est vous qui décidez.
22h. Hein. Non, c'est pas dans le programme, puisque du coup, c'est last minute.
Alors, 21h50.
21h, ouais, 21h.
Évidemment, avant tout le monde, forcément, hein, parce qu'il faut bien
manger,
chauffer les platines.
Et puis se préparer, surtout.
Chauffer les platines et mettre les glaçons au frigo.
Et donc, du coup, ça sera jusqu'à 2h aussi. Vous avez.
Bah, 2 ou 3 heures, on attend l'autorisation. Ouais. On espère que ce sera 3h.
Ouais, je pense qu'ils vont être cléments.
3h, ouais. Et puis après, il paraît que l'eau du canal est assez chaude en ce moment. On ira nager.
Après quelques degrés d'alcool dans le sang, a priori, on sent
avec
plus
modération,
froid.
Hein, par contre,
ne fais pas l'apologie de l'alcool.
Avec
non,
modération.
Pas l'apologie
avec
de modération, bien sûr.
Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça.
Je crois qu'on peut finir sur ça.
Et alors, moi, je voulais quand même parler du futur. J'ai cru comprendre que vous vouliez peut-être, vous imaginiez peut-être arrêter le festival. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou...
Pour l'instant, on essaye déjà de faire ce week-end d'inauguration et de faire la fête samedi et de tenir... voilà. Et effectivement, la situation économique de l'association qui porte et le centre photographique et le festival est plutôt critique. Mmh. Et donc, ça questionne beaucoup. Ça questionne beaucoup et c'est l'objet de la réunion du conseil d'administration de fin juin. Mmh. Donc, on va faire le bilan déjà de cette édition. Mais déjà, le bilan 2022 est plutôt dans le rouge. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir... qu'on voit aussi comment quelle est notre place aussi dans cette ville quoi voilà par rapport à toute l'évolution que la ville est en train de vivre voilà.
C'est quand même la 15e édition et comment vous ça vous est venu de lancer ce festival qu'est-ce qui a allumé l'étincelle pour que vous démarriez cette aventure?
La première chose à l'époque avec Gilles, c'était pour nous, hein, c'était le constat dans le paysage photographique des festivals qu'on connaissait bien, hein, puisque Gilles est avant tout photographe. Moi, je travaillais en tant qu'attaché de presse dans le milieu de la culture et notamment pour Visa pour l'image à Perpignan. Et nous, notre constat, c'est que la photographie qu'on aimait, donc la photographie documentaire, on ne la retrouvait pas. On la retrouvait ponctuellement à droite, à gauche, mais il n'y avait pas d'événement dédié à la photographie documentaire. Et voilà, ça a été vraiment le point de départ. Et à l'époque, à Sète, une directrice d'affaires culturelles qui voulait faire un festival de la photographie, la jeune photographie contemporaine, nous, on lui a dit, nous, on aimerait bien faire un festival plutôt de photographie documentaire. Donc, on a fait un gros travail d'éducation, même au niveau du ministère de la Culture, parce qu'à l'époque, il y a 16 ans, la photographie documentaire, personne n'en parlait. On nous a renvoyé aux archives, au patrimoine à l'époque, je me souviens. Et donc, il a fallu vraiment qu'on défende cette photographie documentaire contemporaine, qu'on explique en quoi vraiment il y avait intérêt à la montrer, à la défendre. Et comme je le disais souvent, la création de ce festival, c'était deux piliers. Le pilier, c'est la défense des droits des photographes, c'est-à-dire qu'on fait partie des festivals qui, dès le départ, ont payé des droits d'auteur aux photographes. Mmh. Parce que la photographie documentaire, des fois, c'est 20 ans. Un sujet qui a été fait pendant 20 ans. Oui, oui. Et le photographe, il va exposer, c'est le dernier à être payé. Les curateurs, enfin les commissaires d'expo sont payés, les techniciens, tout le monde est payé sauf les photographes. Donc voilà, c'était ça, remettre les photographes au cœur de l'économie qu'ils génèrent. Et le deuxième pilier, c'est la gratuité. La gratuité pour les publics, c'est offrir à tous la possibilité d'être confrontés à ce style photographique. Voilà. Donc,
elle est bien, hein.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est très clair en plus.
On va la garder. On se posait la question. On va peut-être la garder.
Non, je suis pas virée. C'est cool.
Tu vas échapper aux coupes budgétaires.
Bon, en même temps, en étant attaché de presse, il y a quand même une certaine maîtrise dans le. Déjà, je vois que tu tiens bien ton micro.
C'est l'habitude de la télé, ça.
Artiste dans sa tenue.
Ouais. Bah, on fait un bon binôme, hein. Voilà.
Voilà. Ben oui, en tout cas, félicitations.
Ouais, de ne pas avoir lâché le bout.
C'est 16 ans, donc, c'est ça ?
Bah, 15 ans.
C'est la 15e édition et la 16e résidence.
Ah ouais. Ouais. Et il y a 16 livres sur la ville, c'est quand même une belle somme, une belle collection.
Ouais.
Ouais.
Voilà.
Rare.
Par contre, je voudrais vous féliciter pour vos t-shirts, ils sont très bien.
Hein. Ouais, nous on adore, on est trop fans, Radio Mus,
on s'aime. On va peut-être essayer d'en refaire un jour.
Ça, c'est surtout Christopher Dombre qu'il faut remercier.
Oui, c'est vrai.
Ouais, bravo Christopher.
C'est lui qui nous a créé notre signalé, notre identité. Mm-hmm. Voilà, bah, ça, bon, j'espère qu'il va continuer.
Si tu nous entends.
Pourquoi il est malade, malade.
On a besoin de t-shirts.
Non,
on a besoin de t-shirts. Moi, j'en veux un orange.
Il va très très bien.
Super bien.
Voilà, ben bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, non ?
Eh ben merci beaucoup.
Que vous vouliez préciser quelque chose ou
Non, bah, je crois qu'il y a une fête samedi soir.
Ouais, c'est ça. Il y aura à boire et à manger, non ?
Salle Brassens.
À la salle Georges Brassens, qu'on se trouve sur le parking du Mascoulé.
C'est gratuit. Ouais. Et c'est gratuit.
Ouais.
Et c'est gratuit en plus. Bon, peut-être pas le bar quand même.
Faut non, pas le bar. Non, là, faut payer un peu quand même.
Le bar, c'est pas cher. Nous, on est pas cher. C'est combien le verre de vin ?
Pas cher.
Le verre de vin, c'est combien ?
3 euros.
Et la bière aussi.
Et il y aura de la bière, sûrement.
Ce qui n'était pas prévu au départ.
Non, c'est vrai. Hein, là, on est bien contents. Eh ben voilà. On aura de la bière.
Oh, elle a l'air ravie.
Mais oui, parce que moi, je bois de la bière.
Parfait.
Bon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup. Bon, à
merci
bientôt.
Radio Muge.
Et puis, bon, on se retrouve dès demain.
À demain.
Dès demain.